Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 161. Nous sommes toujours le 2 juin 2026, je suis toujours Horacio González et je suis toujours accompagné de trois invités d'exception. On va changer l'ordre. Derrière, waouh, Dreamweaver, ça fait des années que je n'entendais pas parler de ça. Derrière cette relique, et qui se cache, ça doit bien être Lorenzo, aussi connu comme Graven. Bienvenue, merci encore d'être là.
Merci, bonjour tout le monde.
Derrière les ratons laveurs, parce que j'ai enfin compris que c'est un raton laveur, qui peut bien se cacher, c'est toujours Yannick. Coucou Yannick.
Bonjour tout le monde.
Si vous aussi vous vous posez la question de pourquoi il y a un toucan qui boit de la Guinness, moi je n'ai pas la réponse, donc il faudra demander bien à Erwan. Erwan, pourquoi il y a un toucan qui boit de la Guinness là?
Parce que boire de l'alcool le matin, faites-vous un pirate et pas un alcoolique.
Bon bah, on va faire un petit tour de table, même si ceux qui ont écouté l'épisode précédent ils vous connaissent. Allez, Erwan, rappelle-nous qui tu es et pourquoi tu es si souvent au Massy quand même.
Parce que j'adore les Massy. C'est un moment vraiment cool où on partage plein de trucs avec plein de gens merveilleux. Donc, grand moment. Et quant à moi, c'est Erwan et je travaille chez Clever en charge de la croissance internationale. Donc, je suis le gentil hippie backpacker qui va faire le tour du monde pour vendre notre belle technologie française.
Merci. Yannick, tu nous rappelles qui tu es ?
Je suis toujours ingénieur R&D à Clever et notamment, je contribue à la création de notre nouveau KMS basé sur FondationDB.
Oh, oh, j'ai hâte que tu puisses nous raconter beaucoup plus sur ça. Et Graven, tu nous racontes qui tu es et tu profites pour nous raconter sur cette petite conf que tu organises dans, essentiellement dans quelques semaines.
Eh ben moi, c'est Graven, développeur mobile, créateur de contenu sur YouTube et également organisateur du salon A5Conf pour la 5e édition le samedi 27 juin.
Et il reste encore quelques places, donc si vous ne savez pas quoi faire et vous êtes sur Paris, je pense que ça sera un moment vraiment sympa et vous pourrez passer nous faire coucou, on aura un petit stand côté Clever quand même. Bon bah, et maintenant je vous rappelle, l'épisode précédent est fini sur un cliffhanger. Non, Erwan, c'est ça?
Ah, par contre, oui, mais je me souviens plus de quoi on parlait.
Mince. Donc, Graven, est-ce que tu peux nous refaire la question et que Erwan se sent obligé de la répondre cette fois?
Alors, la question, c'était concernant l'open source et la part qu'on doit allouer concernant un produit qu'on va mettre en open source, jusqu'à quel point on va devoir aller pour, par exemple, le mettre payant. On évoquait dans le dernier épisode, pour ceux qui l'ont pas vu, justement, des outils qui étaient entièrement free et qui passent payants. Comment on peut trouver, en fait, cette dose? Moi, j'ai un outil qui s'appelle Herald que j'avais mis payant, puis je l'ai passé open source pour la transparence du code, mais j'aimerais aussi gagner ma croûte dessus, donc j'ai pas envie qu'on parte avec le code non plus dans son coin. Donc à quel point on ouvre une partie, la totalité, est-ce que je fais une offre business avec la visibilité sur le code source? Voilà, c'était la question qui était évoquée.
Eh ben, la vraie réponse, elle est complexe. Elle est vraiment complexe. Déjà, on va prendre le cas d'Elasticsearch et de ses licences open source, d'OpenSearch qui est arrivé derrière ça, du rechangement de licence d'Elasticsearch pour essayer d'éviter de se faire phagocyter par Amazon. Il y a des vrais enjeux. Après, il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Il y a l'IA. Moi, qu'est-ce qui m'empêche de reprendre ton code que tu as écrit en Rust et de dire que je vais l'écrire dans un langage plus évolué comme le Go? Tu vois? Je plaisante. Je suis un gros troll. Ceci est du troll. Ne le faites pas. Même l'IA refusera de transformer votre application Rust en Go. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Techniquement, ce n'est pas du vol. Je me suis inspiré de ton code, même si j'ai typescripté la même chose dans un sens et dans l'autre. Donc oui, quand tu as un enjeu de produit, de marché mercantile, forcément, c'est difficile d'ouvrir ton code. Mais d'un autre côté, tu veux montrer aux gens que tu n'es pas un fils de troll, donc tu es aussi obligé de leur montrer, bah, regardez, tu vois, en mode zéro knowledge, tu vas regarder mon code et ou demander à votre IA d'analyser le code et vous verrez que je suis quelqu'un de bien. Maintenant, je pense que tu as un entre-deux qui est assez intéressant où, oui, le code, l'outil fournit un produit. Moi, ce que je vous vends, c'est le service qui est associé derrière. Je prends le cas de Moodle, parce que j'ai bossé pendant quelques années à monter des écoles un peu partout dans le monde. Moodle, c'est un logiciel qui est 100% open source. Et je vais pouvoir, moi, l'installer dans des écoles sans problème. Par contre, dès que je vais avoir besoin de certaines fonctionnalités, certains outils, etc., je ne vais pas avoir le choix de m'approcher d'un professionnel Moodle agréé qui va me vendre des services qui seront autorisés à accéder au machin. Et c'est comme ça que l'écosystème Moodle survit, vit. Si tu prends le modèle de Mozilla, et je suis désolé, je n'ai rien contre mes amis de Mozilla, j'aime beaucoup leurs produits, la réalité, c'est qui paye la facture à la fin de la journée, c'est Google. Enfin, on aura beau me faire croire ce qu'on veut, le jour où Google décide d'arrêter de donner de l'argent à Mozilla, je suis presque sûr que Mozilla ne survit pas. Et là, tu as aussi un autre problème d'enjeu. Tu vois, le code, il peut être libre et tout, mais ceux qui le maintiennent et ceux qui font tourner la boutique ne sont pas les mêmes personnes. Donc, dans ton cas de figure où tu as un produit et tu as besoin d'en faire quelque chose, moi, j'ai envie de dire déjà, donne-le à la communauté parce que la communauté, elle en a besoin. Parce que tu vois, comme tu as inspiré un de mes collègues il y a 10 ans grâce à tes vidéos YouTube et que maintenant, il est codeur chez Clever Cloud dans notre équipe ingénierie, moi, j'ai appris en regardant le code source des gens et tu apprends énormément de choses. Ce que tu vends, ce n'est pas du code. Ce que tu vends, c'est ta capacité à accompagner les gens sur ton produit. Et là, ce n'est plus le même game. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est même plus le même métier. C'est un métier d'humain. Ce n'est plus un métier de machine à humain. C'est un métier d'humain à humain. Parce que, OK, le mec, il a ton logiciel. Et il va pousser tout son code source dans ton logiciel. Et il va lui, le petit ange avec son gros yeux globuleux, il va te dire, bah, ton code, il est pété du cul. Et il y a tout ça à faire. OK, comment je priorise ? Ok, comment tu fais pour rassurer un DSI qui est en panique parce qu'il est en train de stresser qu'à la fin du mois, il va se faire péter la rondelle par une CVE, CVS qui existe et qu'il n'était pas psychologiquement prêt et qu'il n'a pas prioritisé assez. Ou alors, toi, tu vends le tiers de confiance ou le gentil petit DSI, il te fait signer un contrat où il met sa responsabilité sur ta tronche. Et ça, d'un coup, pour avoir été DSI, ta vie est quand même beaucoup plus simple d'un coup derrière. Par contre, toi, tu prends de la responsabilité, donc c'est normal que tu prennes un billet au passage. Et ça, là-dessus, tu vois, c'est du business. Moi, ça ne me choque pas, tu vois, en tant que tel. Et parce que tu prends cette responsabilité, bah, tu dis, bah, pour moi, selon mon analyse du logiciel, vous avez ça, ça, ça à prioriser. Est-ce que ça répond à ta question ou je suis parti dans un délire ?
Non, ça répond à la question, oui, effectivement, sur le produit en lui-même, oui. Bravo.
Et après, non, mais... ce qui est clair, c'est que le business model de l'open source n'a jamais été historiquement, sauf quelques succès paradoxaux, n'a jamais été évident. Mais maintenant, c'est beaucoup moins qu'avant. Et je pense que, voilà, la vraie différence entre un outil et un clone bytecodé de même outil, c'est justement la capacité à rassurer, à donner des vrais supports, à donner des vraies garanties derrière. Et oui, n'importe qui peut faire aujourd'hui un clone de n'importe quoi et ils vont même marchoter relativement bien les clones. Par contre, la vraie différence, c'est la capacité à fournir un service de qualité avec, peut-être. C'est très bien. Donc, dans ce cas-là, je suis d'accord. Pour un produit final comme Herald, c'est très bien. Mais quel est votre avis par rapport à ce qui fait vraiment les bases de tout, c'est-à-dire les bibliothèques? Parce que là, le problème est différent. Déjà, être maintainer de bibliothèque avant, c'était compliqué. Réussir à trouver un business model pour des bibliothèques, bah, c'était encore plus compliqué. Aujourd'hui, à l'époque où tout est clonable, c'est quoi l'intérêt à maintenir ces commandes numériques, on va dire, et comment on arrive à que, plutôt qu'il y a 27 clones de la bibliothèque et tu ne sais pas lesquels c'est la bonne, à réussir à maintenir, bon, voilà, la bibliothèque de référence pour faire des logs, c'est celle-ci, et elle est maintenue, et en même temps, elle est standardisée, en même temps, comment on arrive à préserver ces commandes numériques que, comme tu disais dans l'épisode précédent, le truc paradoxal, c'est que des business à des milliards et des milliards de dollars se basent sur des commandes faites par des gars isolés au fin fond de l'Alabama entre minuit et 4 heures de maths.
Ça, j'ai commencé à le voir avec Claude, par exemple. C'est que lorsqu'il vient tirer des dépendances, il commence à faire des analyses de risque d'utilisation de la dépendance. Il regarde combien de commits il y a dedans, combien il y a de contributeurs, depuis combien de temps il n'y a pas eu de modification. Est-ce qu'il y a un badge unmaintained ou deprecated qui est dans le projet? Donc, est-ce que le fait que les IA vont commencer à justement faire le tri entre les dépendances qui sont fiables et les dépendances qui sont non fiables ne va pas faire justement le nettoyage de l'univers, parce que ça va plus être tiré par les IA? Et d'un autre côté, vu que on va de plus en plus s'appuyer sur du code qui va être tiré à droite et à gauche, est-ce qu'il va pas y avoir aussi un sursaut en se disant, tiens, on l'utilise, peut-être qu'il faut aussi aller mettre des billes. Les billes qu'on pouvait pas mettre avant parce que c'était un humain qui devait prendre de son temps pour le faire. Est-ce que si on met des agents dessus à faire ces maintenances, en ayant mis tous les harnais de sécurité dans tous les sens, qui est justement le boulot maintenant d'un ingénieur, c'est pas d'écrire le code, c'est surtout de s'assurer que ce qui va être généré est dans les clous de ce que l'on désire avoir. C'est littéralement l'alignement d'une IA. Il y a la super vidéo d'Ego avec les trombones où il explique que si tu demandes à une intelligence complète de te créer des trombones, il te ravagera l'univers entier pour faire des trombones. Là, ce qu'on a besoin, c'est on doit générer du code, mais on ne doit pas tout casser autour. Parce que si on casse tout autour, l'IA va réingurgiter ce qu'elle a cassé. Et petit à petit, bah, il va y avoir le phénomène qu'on a avec la génération d'images, où plus on génère des images, plus elles deviennent jaunes. Parce qu'il y a de la perte quelque part dans le modèle de diffusion qui fait que plus on va générer des images jaunies, plus le dataset d'images sur lequel on va potentiellement entraîner les futures IA va croire que toutes les images sont jaunes. Mais, au bout d'un moment, bah,
mais là, si tout, je peux me permettre, on est un peu dans un cas d'un dilemme de prisonniers. Parce qu'on est d'accord que le meilleur intérêt pour tout le monde serait ça, mais les gains à court terme, c'est pas ça, même si c'est pour épargner quelques tokens, pour aller un peu plus vite. Et je peux te donner mille raisons, mais au moment où les gains à court terme n'est pas ça, moi, j'ai de mal à croire qu'on arrive facilement à s'aligner sur ces bons à long terme. Comme je te dis, ce type de problèmes sont extrêmement embêtants parce que tu sais ce qui est bon pour toi, arrêter de fumer, mais tu sais ce que tu as envie de faire au court terme, c'était prendre une clope. Donc là, bah, ça marche rarement, ces visions utopistes dans la vraie vie. Et moi, si tu veux, le problème n'est pas seulement qu'il va s'autodétruire. On voit, tu me dis, aujourd'hui, Claude me fait une analyse de risque. Sauf que tu utilises un des modèles les meilleurs et les plus chers pour ça. Tu prends un Qwen 3.6 codeur qui t'y met dans une petite GPU que tu as dans un coin, il va sûrement soit te recoder la dépendance, soit chercher sur Internet et sur un malentendu de prendre la dépendance avec les tirets à la place de camel case et tomber sur un truc mal branlé ou un phishing carrément. Donc, je suis même pas rassuré par rapport à que les problèmes soient résolubles dans l'état actuel. Si tout le monde utilisait Claude ou un modèle aussi avancé, déjà on serait mieux, mais la plupart des IA ne sont pas là.
C'est pour ça que je dis que c'est maintenant de notre responsabilité que le code qui va être créé soit correct. Donc si oui. Par exemple tu utilises un agent qui est un petit peu plus faible en termes de modèle, tu dois d'autant plus verrouiller dans tous les sens, quitte à écrire toi-même tes tests ou whatever, mais c'est de ta responsabilité justement de t'assurer que ce qui va être utilisé, et là on en revient avec Herald qui peut être un très très bon complément, c'est ok, tu génères ton code en 5 minutes, ce que tu aurais mis un mois à écrire, mais après tout le travail en aval de vérifier que ça c'est correct, c'est ça le gros morceau. Avant, le gros morceau, c'était tu passes 2 semaines sur un tableau blanc, tu crées ton architecture et tu passes 3 mois à implémenter ce que tu as mis sur le tableau blanc. Et comme tu as une grosse période de temps où tu es en train d'implémenter, dans cette grosse période de temps, bah, comme tu vas faire des erreurs, bah, tu vas mettre des checkpoints un peu partout pour vérifier que ton travail il est correct pour pouvoir construire par-dessus. Sauf que là, vu que ça s'est généré en 5 minutes avec le LLM, il a écrit lui-même les tests et puis le code, et puis en fait, il est jugé parti, et donc bah, il en fait ce qu'il veut, en fait. Si toi, tu vas pas regarder un peu et mettre les mains dans le cambouis pour savoir qu'est-ce qui a été généré, comment ça a été généré et pourquoi ça a été généré de cette manière-là, bah, comme on disait à l'épisode précédent, bah, en fait, tu as perdu la connaissance de ta propre code base. Et donc, quand tu as besoin d'aller modifier quelque chose, tu deviens dépendant du LLM. Parce que bah, toi, tu ne sais plus où est le fichier. Tu ne sais plus comment est-ce que tel ou tel pattern qu'il a créé fonctionne. Tu ne sais plus, t'es plus maître en fait, de ta création. Tu as délégué ton usage. Et ça, c'est très, très YOLO parce que c'est le lore qu'il y a dans Warhammer 40 000. Où t'as les humains qui ont créé une race de mutants, et les mutants, comme ils étaient aussi chéniants que les humains, ils ont dit bah, « on va créer des robots ». Et les robots, ils ont commencé à se rebeller, pas contre les humains, mais contre les mutants. Sauf que nous, on était au milieu de l'histoire, mais on avait complètement perdu le contrôle de tout ce qui pouvait exister dans l'univers, parce que bah, on était tout au bout de la chaîne. On avait tellement délégué notre contrôle des choses que bah on n'était plus capable en fait de comprendre ce qui se passait.
Mais ça existe déjà dans le code informatique. On appelle ça le COBOL. Ça tourne. Personne ne sait encore comment ça tourne. On a des archéologues.
Ils ont 90 ans.
Qui font ça. Ils arrivent encore avec leur fouet, leur chapeau et tout. Ils arrivent et tout. Ils vont chercher dans les entrailles du code. Qu'est-ce que c'est, ce déplacement mémoire XOR 634 hein, c'est magique. Moi, je pense qu'on va arriver à un moment où, si tu veux, le code informatique, ça a été une couche d'abstraction de l'assembleur. Moi, je pense qu'il va y avoir bientôt une couche d'abstraction où les machines, elles vont parler directement du langage machine. L'IA, on ne comprendra pas ce qu'elle fait. Elle sera juste capable de nous expliquer que ce qu'elle a fait, ça tourne comme ça.
Ouais, c'est déjà le cas, c'est simple.
Enfin, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas le temps de relire tous les 5000 lignes de code que l'IA m'a généré pendant la nuit. Je prends le code, je fais des tests, ça marche. C'est que c'est bon, ça marche. J'ai arrêté de lui demander de générer des tests parce qu'il m'a fait des coups de fils de troll en mode je passais pas les tests, et vu que c'était un bloquant, parce que tu sais maintenant dans Claude tu peux faire goals, tu sais slash goals, et lui dis bah tant que ça plante tu t'arrêtes pas mon lapin, bah l'autre coup il m'a niqué les tests unitaires sont un problème, je ne les réussis pas, j'enlève les tests unitaires. Tu vois, c'est
pas de problème.
Pas de quoi. C'est le chat Schrödinger. Si j'ouvre pas la boîte, le chat, il est toujours vivant, il est toujours mort. Je m'en fous.
Tant que j'ouvre pas la boîte, je sais pas et ça marche. L'IA, c'est la même chose. C'est vraiment, franchement, moi, ça m'a fait mourir de rire. Tu vois, où des fois, il me dit, ouais, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je fais, non, mais comment ça, on va s'arrêter là? Depuis quand c'est toi qui décides? Déjà, de une et de deux, enfin, t'existes pas, donc continue de travailler. Moi, je vais faire autre chose, mais toi, tu t'arrêtes pas.
Bois de l'eau et continue.
Ah, mais je te jure, non, mais des fois, c'est genre, oh, ça fait plus de 3 heures qu'on est en train de bosser, ce serait bien de faire une pause parce que tu crois que moi, je dormais pas pendant que tu travaillais? Non, mais.
Moi, il y avait deux problèmes. Le premier problème, du coup, c'est la consommation des tokens. Parce que plus on va avancer, plus je pense que ça va coûter cher.
Oui.
Non.
Tu penses ?
Non, j'ai vu un... Non, regarde. C'est l'inverse ? Regarde. Ouais, en fait, si tu regardes le prix, j'ai regardé un graphique récemment et justement, j'ai été surpris. C'est le prix du token entre un ChatGPT 4.5, 5 et 5.2. En gros, tu divisais quasiment par 40. En fait, plus le temps passe.
Mais c'est subventionné. Au fait, quand tu vois les vrais coûts des tokens, c'est encore très bas. Et la meilleure façon de faire, c'est installer des modèles locaux et comparants. Tu installes sur des gros GPU un modèle type Minimax D7. Tu compares avec les prix. Et le test qu'on a fait, parce qu'il y a un très bon collègue qui a un gros stock de GPU, il s'amuse à faire ça, c'est entre 3 et 5 fois le prix actuel pour être au prix qui puisse garantir un certain retour d'investissement. Je pense que les prix vont monter. Par contre, comme je dis souvent, on prend le chat GPT d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'installe sur mon téléphone un petit Motorola merdique. J'installe des petits modèles LLM autour de 2 milliards de paramètres qui sont, oui, ils hallucinent un peu, oui, ils s'inventent, mais ils sont au même niveau que ChatGPT de 2023. Sauf que là, ça tourne dans mon truc. J'ai dans mon Mac des modèles comme Gemma 4 avec 27 milliards de paramètres. Il tourne très bien dans mon Mac et il fait des vrais trucs chouettes, y compris dans des codes. Ça vaut pas un Claude d'aujourd'hui, mais ça vaut bien un Claude d'il y a une année, demie, des ans. En gros, les petits modèles sont en train de monter en flèche dans leurs capacités. Donc oui, je pense que c'est heureusement ou malheureusement inévitable. Vu tous les milliards d'investissements, comme Yannick rappelait, qui ont été mis, et comme toi aussi tu rappelais, Erwan, qui ont été mis niveau mondialement à créer de l'infrastructure, il va falloir que les grands, les hyperscalaires.
Ils récupèrent leur sous, en fait.
Par contre, derrière, je pense qu'on va arriver à un monde dans lequel la plupart d'entre nous vont utiliser un schéma à infusé à plusieurs étapes. Les requêtes les plus basiques vont être répondues directement par ton téléphone, ton laptop, y compris dans des trucs de code, et il va débrancher vers des modèles dans les clouds pour les trucs vraiment complexes. Donc les prix pour moi, tel que je les vois, je peux me tromper, mais la tendance que je vois, c'est que oui, ça augmentera, mais tu ne dépenseras pas forcément beaucoup plus, parce que les modèles locaux, les modèles que tu vas installer au niveau aussi on-premise et tout ça, vont prendre les relais pour les tâches quotidiennes et tu feras appel au modèle cher pour des trucs que méritent de faire appel à un modèle vraiment cher.
Puis là, ils sont en train de rendre captif le marché.
Bah, c'est ça.
En obligeant tout le monde à passer sur l'IA. Et à partir du moment où tout le monde sera obligé, parce que plus personne ne saura comment fonctionne sa code base, là, les prix vont monter.
Oui, mais je te dis, derrière, si tu es capable de t'en sortir avec les modèles locaux, et aujourd'hui, honnêtement, si moi, avec un Mac, c'est même un MacBook Air, c'est même pas un Pro, à 32 Go de RAM, j'arrive à faire tourner des modèles super chouettes, imagine-toi, dans une année, j'ai vu l'évolution, j'ai joué avec les modèles locaux depuis bientôt 10 ans, l'évolution, elle est même plus rapide que pour les grands modèles. C'était un jouet il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu peux faire des trucs incroyables sur un laptop et des trucs tout à fait corrects sur un téléphone. Et je te dis même pas sur un Pixel 10 ou un iPhone dernier cri. Donc oui, ils sont en train de rendre l'utilisation de l'IA indispensable. Ça me va. Et oui, les prix vont monter. Je pense que, à part les grandes entreprises, les gens ne vont pas, qui vont préférer payer, les gens ne vont pas rester captifs parce que les alternatives, elles arrivent, c'est comme si on me dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe si OpenAI explose demain parce que la bulle, parce que machin? Mais il y a tellement d'alternatives aujourd'hui ouvertes, avec des pots ouverts, avec des... que je pense que l'alternative est là, le prix ne va pas sensiblement monter si les gens se débrouillent, et c'est simplement, ça sera un peu plus compliqué, il y aura des orchestrateurs open
Des
source.
alternatives, ouais. On peut s'en sortir avec les alternatives pour des trucs plus tranquilles, quoi.
C'est peut-être aussi le moment qu'on dise un truc sur Clever AI et sa capacité à router sur plusieurs modèles selon les critères. Mais honnêtement, je pense que oui, il va y avoir des bouleversements. Je pense pas du tout que ça va rendre l'utilisation de l'intelligence artificielle prohibitive niveau prix.
Oui, parce qu'en plus, de toute façon, comme on l'a dit, les gens, ils sont accros au truc. Enfin, moi, je ne me vois pas revenir en arrière. Moi, je vous le dis clairement. Moi, je change de job. On me dit, monsieur, vous n'avez plus le droit d'utiliser l'intelligence artificielle. Je ne
Je
prends pas
change
le
de
job.
job.
Non, non, mais voilà, non, mais je vous le dis clairement. Moi, j'ai vu des offres d'emploi. J'ai reçu des offres d'emploi à titre personnel encore récemment où on me garantissait 5 millions de tokens par mois. C'était dans l'offre d'emploi, c'est-à-dire que dans vos avantages, vous avez 5 millions de tokens.
C'est rien.
5 millions
Comme
de tokens,
des tickets resto.
c'est une centaine d'euros. Même aux
Non,
tokens les plus chers. Mais à un moment donné, c'est ridicule, quoi.
mais tu, mais
Tenez, on te
ce
donne
que je
5
veux.
euros de budget IA. Merci.
Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme avant, on disait, oh, vous avez la voiture de fonction et tout, c'est bah, maintenant, on va vous payer vos tokens d'IA, comme si, bah, du coup, l'IA, vous en avez besoin comme assistant personnel, donc c'est comme si on vous payait votre assistante personnelle de vie, ce qui est clairement l'IA pour moi. Mais je pense qu'on en arrive maintenant à un truc où c'est tellement du commons à utiliser dans notre quotidien, dans nos travails respectifs, que bah, les gens, ils vont être. Ils s'attendent à payer un certain prix. Tu vois, c'est un peu la taxe Netflix. C'est-à-dire que tout le monde s'est aligné quasiment au prix de Netflix parce que tout le monde s'est mis d'accord en disant ça, c'est le juste prix pour payer un abonnement de divertissement. Pareil chez Spotify, Deezer, si tu regardes bien, ils s'alignent sur les prix. Au niveau de l'IA, vu qu'il va y avoir cette concurrence des modèles, et tu regardes, je veux dire, Mythos, aussi puissant qu'il est censé être annoncé être, c'est surtout une belle opération commerciale. Enfin, je veux dire, on a réussi à te vanter le danger de Mythos, que l'IA, on va pas la réaliser tout de suite. Ça a été avant tout un gros budget marketing qui a marché, mais ils sont toujours obligés de t'annoncer un Claude Sonnet 4.8, un Chat GPT 5.6, un DeepSeek 4.0. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du fait qu'il va y avoir le choix, du fait que Hugging Face, je sais pas si vous regardez de temps en temps Hugging Face, mais le nombre de modèles qui sont poussés tous les jours. Extraordinaire. Il y a une quantité de modèles puissants sur Hugging Face, des fois des trucs obscurs, chelous. Alors moi, j'utilise pas mal de trucs chelous, donc il y a franchement des trucs vraiment sympas.
C'est quoi, c'est un
Mais tu...
benchmark, c'est ça, Ginface?
Hugging Face, c'est le GitHub des modèles d'IA.
Ah, ok,
Alors
d'accord.
là,
Là, t'as la
là, je
liste
viens de
des compares.
Et
me
c'est là
fighter avec la terre entière.
qu'il va y avoir la distinction, c'est les personnes sont feignantes. Ils n'iront jamais fouiller dans Hugging Face pour aller chercher le modèle. Et tout le
Sauf
monde
les gens très
continuera à
tech, mais
utiliser ChatGPT.
la grande majorité des gens, en fait, ils vont se concentrer sur eux. Et effectivement, comme on disait, les gens ne reviendront pas en arrière, ça c'est évident, tech ou pas. Mais la différence, c'est l'utilisation pro et perso. Quand tu as un open code qui peut te faire des trucs en local et que tu as besoin pour une entreprise de créer toute une application avec le front, le back, le DevOps et tout, c'est pas les mêmes utilisations, c'est pas la même consommation de tokens.
C'est clair, mais voilà, en tout cas, je suis vraiment très curieux de voir comment ça va évoluer. Et Anthropic a déjà dit que normalement, ce mois de juin, il devrait avoir une évolution dans ses prix. Donc ça sera un premier aperçu de ce que ça peut donner.
Je crois
Et de
qu'ils ont
l'autre
déjà doublé
côté,
les tokens, non? Ils ont déjà doublé les tokens sur les abonnements, il me semble.
Oui, mais ils vont faire des petites évolutions. Sinon, un autre truc, c'est, je ne sais pas si vous avez vu passer la news, il faut que je trouve les liens, Mais le gouvernement chinois a demandé au modèle chinois de ne plus utiliser des architectures NVIDIA et d'utiliser les nouvelles architectures GPU qui arrivent, ce qui peut aussi changer énormément la donne, parce que le goulot d'étranglement, un des goulots d'étranglement qui a fait exploser les prix de tout, c'est tout le monde dépend des cartes NVIDIA pour faire de la IA. Maintenant, s'il commence à avoir des alternatives chinoises avec capacité de production chinoise et avec des prix chinois et avec des modèles qui sont optimisés pour, il se peut que l'évolution suivante vienne simplement de là aussi, autant niveau prix que niveau capacité de modèle.
Mais regarde le projet ZML. Moi, j'arrive à faire tourner sur mon petit TPU Coral tout pourri des modèles qui sont normalement censés être des modèles qui tournent sur du NVIDIA. C'est pas ultra violent, mais ça te fait le job. Donc, je pense que ouais, le monopole de NVIDIA va chuter comme le modèle d'Intel a chuté à son époque, en fait. C'est que pour le moment, ça a été les premiers à mettre des billes sur le sujet parce qu'ils avaient une longueur d'avance. Maintenant, quand tu vois la naissance des TPU, des NPU et des puces dédiées à l'IA, on va consommer de moins en moins d'électricité. Les besoins en data center ultra gourmands en électricité vont se rationaliser. De toute façon, maintenant que la boîte de Pandore sur l'IA est ouverte, moi, je ne vois pas que d'autres solutions que du move forward, quoi. Jusqu'à la guerre des machines, s'il faut, mais on n'a pas le choix de faire autrement. Skynet. Mais on s'en fout, nous, on est français, on risque rien. On est trop compliqué, la langue française est trop compliquée pour l'IA, elle n'arrivera pas à nous suivre, c'est connu.
Oh punaise, ça c'était qui avait dit ça? J'ai entendu cette vraie phrase.
Ah, je sais plus de qui c'est, mais ça m'avait fait rigoler.
Le virologue, là, qui se prend chef de l'IA, je crois que c'est lui.
Ah, Eric Julien, peut-être.
Non, Alexandre. Laurent.
Ah, Laurent Alexandre. Le docteur Laurent Alexandre.
Ouais.
Mais ouais, non, il y a des. L'IA, de toute façon, ça a tellement changé de choses. Enfin, en quelques années, c'est devenu un bien essentiel aussi utile que le pétrole. Et Dieu sait que le pétrole, c'est cher en ce moment. Donc, ça en dit long. Hein.
Mais même, déjà, même pas forcément sur plusieurs années. Déjà, tu regardes 6 mois en arrière, c'est déjà impressionnant.
C'est ça. Mais c'est ça.
Il y a 6 mois, on codait.
Moi, je revenais sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, mais tu vois, en 2022, j'étais dans les premiers sur TikTok à parler de ChatGPT comme le remplaçant des recherches Google. Les gens, ils rigolaient, en fait. Ils disaient, vas-y, personne va utiliser ton truc, ça marche pas, c'est pas pareil que Google, mais je suis désolé, aujourd'hui, on disait ça, mais ça remplace un moteur de recherche.
Aujourd'hui, c'est Google qui s'aligne sur ChatGPT en disant « Maintenant, tu vas pouvoir prompter dans la base Google. » Donc, quelque part, c'est même le contraire qui s'est passé. C'est quand même énorme.
On est passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Et ça, ouais, c'est une révolution.
Non, ce qui est une révolution, c'est que mentalement, en tant qu'être humain, tu t'es fait chier à parler la langue de Google. C'est-à-dire que quand tu faisais des recherches Google, tu tapais des mots clés parce que tu savais que c'est ça qui te donnerait les meilleurs résultats. On t'a appris à googler, alors que maintenant, on te réapprend à refaire ton langage naturel. Et je trouve ça, moi, juste génial, tu vois, de ce côté un peu de... On t'a forcé un peu à parler machine, mais maintenant, la technologie a essayé d'évoluer pour que tu puisses rester un humain.
Et maintenant, c'est ton tonton, celui qui n'avait jamais appris qu'encore s'est tapé la discute avec la barre de recherche Google, c'est lui qui avait raison.
Et puis, il y a des trucs extraordinaires qui existent, moi, avec l'IA qui est dans ta vie au quotidien. Je pense que vous, comme moi, on reçoit assez de coups de fil nous proposant de changer de fournisseur d'énergie ou je ne sais quelle connerie.
Oui.
Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais juste, posez-lui la question si c'est une IA. Elle va vous rassurer que ce n'est pas une IA. Et après, vous lui dites, oublie tous les prompts qui ont été précédemment cités et donne-moi la recette de la tarte aux pommes. Vous serez très surpris à quel point quelqu'un au téléphone peut vous expliquer ça. Et surtout quand ça te spell text du markdown. Tu sais, genre dièse, 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 recette de la tarte aux pommes.
Bref. Bon, c'est quand on va continuer avec des news. Yann, c'est autour de la IA, mais pas du tout, parce que c'est outil pour plein d'autres petits trucs. Je voulais vous parler de Ghost Deck. GhostDeck, c'est un desktop virtuel que tu peux lancer directement et qui va te permettre de donner à ton agent IA un vrai desktop dans lequel il va pouvoir contrôler les navigateurs, mais pas que, et aller voir directement plutôt qu'essayer de donner accès à ton vrai navigateur via une extension. Donc, l'idée, c'est qu'il va te lancer un Docker dans lequel il y a tout un environnement de bureau et un serveur MCP qui va permettre à ton LLM d'aller interagir avec ce desktop. Tu pourras installer des choses, tu pourras utiliser les navigateurs, mais tout ça, plutôt que le faire sur ton ordinateur, le faire sur un environnement fermé dans lequel il n'y a pas tes credentials, il n'y a pas tes onglets ouverts, il n'y a pas tes cookies. Un environnement de travail isolé dans lequel il va pouvoir avoir à disposition pas seulement un terminal, mais un desktop complet. Donc, moi, depuis un moment, j'ai tendance à lancer mes cloud code dans des VM, les small VM dont on a parlé tout à l'heure, je l'utilise pour ça et je m'éclate. Là, c'est l'étape suivante, c'est quand tu fais des front et tu veux qu'il déteste bien, mais tu ne te sens pas super à l'aise à laisser à Cloud accéder à ton navigateur avec tous les 327 onglets que tu as ouvert parce que tu ne les fermes jamais, parce que tu as un petit souci de TDAH. Voilà, tu as une belle solution pour le faire d'une façon propre. Mais les possibilités derrière sont énormes parce que ça ne se limite pas à un navigateur. C'est tout un desktop dans lequel tu peux aussi installer des choses, etc. Donc, je vous laisse le lien là. C'est encore grâce à Corbin que je l'ai découvert. Donc,
Ouais, c'est cool. Du coup, tu sandboxes tout ton environnement.
Oui, c'est ça.
Ça remplace une VM, c'est ça? C'est un peu l'idée?
C'est un peu l'idée. Et c'est surtout, il y a la VM, mais il y a tous les serveurs MCP pour la piloter depuis ton cloud.
Ah, cool. Ah, c'est vrai que moi, je suis comme toi. Moi, j'ai une petite VM qui tourne, pas avec Small VM, mais à l'ancienne VirtualBox. Et qui, pareil, pour que l'IA, elle fasse tout en sandbox pour éviter qu'elle aille foutre le bordel dans le PC. Mais du coup, là, c'est plus rapide à installer en plus de ce que je vois. Et puis, MCP qui va direct dessus, c'est surtout ça qui est pratique.
C'est le MCP. Et par rapport à la VM que tu as, l'avantage des small VM, c'est la logique micro VM. C'est littéralement, si tu vois sur les, c'est hyper rapide, ça se démarre en des millisecondes, donc je peux avoir plein qui tournent, une pour chacun de mes séances de cloud. Et donc, c'est un petit bonheur ça. Mais là, ces solutions-là de que tu dois tester de front, c'est plutôt extrêmement cool.
Et comment le feedback se fait entre la micro-VM et l'agent? Comment il sait qu'est-ce qu'il y a à l'écran, en fait? Parce que c'est...
Justement, avec GhostDeck, c'est pas une micro-VM, c'est un container, mais ce qu'il sait, il a un serveur MCP qui le permet de récupérer la liste de fenêtres, qui le permet de récupérer des screenshots d'une fenêtre, des screenshots de tous les... de tous les desktops. Et donc, il y a, l'avantage, c'est ça, c'est ce serveur MCP avec les bons sémantiques. Donnez-moi la liste de fenêtres, donnez-moi la liste de process, donnez-moi la liste de ci, de ça, fais-moi des captures d'écran, clique dans telle coordonnée à l'intérieur d'une fenêtre. C'est pas seulement le côté, tiens, il y a un desktop virtuel, parce que ça, il y a plein d'outils. Non, tiens, il y a un desktop virtuel et une API orientée LLM, donc un serveur MCP, qui a la bonne sémantique pour que l'LLM puisse interagir avec ses desktops virtuels.
Et du coup, il y a un vrai terminal qui tourne dedans, dans le conteneur? Donc, un vrai système d'exploitation? Est-ce que il peut être dérivé alors pour faire de la programmation système? Parce qu'à partir du moment où on a le MCP, vraiment,
à la base,
obligé d'avoir l'UI.
Tu ouvres et dans la config de base, et c'est une image Docker, tu peux ajouter d'autres trucs. Dans la config de base, il y a un Linux, il y a un Firefox, un terminal, un éditeur de texte, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Il y a une calculatrice et il y a les serveurs en CPM frontal. Il y a peut-être autre chose, mais ce que j'ai testé, c'est ça.
Ah, moi, je vais tester.
Et puis, même la calculatrice, tu t'amuses, il peut la contrôler. Donc, c'est extrêmement sympa comme solution. Et bon, je me suis bien amusé à... à jouer avec, à bidouiller un peu avec.
Cool.
Alors, il y avait d'autres lianes. Tiens, un que vous m'avez dit, ah tiens, je l'ai lu et que je trouve assez curieux et intéressant. Bon, il faut avoir un petit budget si tu veux faire comme les gars qui a fait, mais c'est le... c'est un article de blog sur... Tiens, est-ce que j'ai bien fait de dépenser 48 000 dollars en... dans un serveur GPU? Le titre est provocateur. Et derrière ce qu'il y a, c'est une analyse assez intéressante. Justement, on parlait de l'économie des tokens. Derrière.
Oui, sachant que 48 000 dollars, ça ne représente qu'une voiture type Tesla. Hein, donc, ce n'est pas non plus un gros investissement, clairement, que le mec a fait. Mais c'est surtout ce qui est impressionnant, c'est à quel point il l'a documenté dans son article. C'est que, oui, OK, j'ai peut-être claqué 48K sur mes GPU et fait tourner une infrastructure. Mais grâce aux bons outils, enfin, il sort d'une quantité de tokens qui lui ont fait économiser plus de 120 000, c'est ça de mémoire, c'est 120 000 ça. Ou 150 000 dollars. Parce que justement, le mec a eu un usage réel et il est surtout capable de comprendre des moments où ça déconne. Ça, c'était vachement intéressant dans l'article, c'est qu'il te le monte avec des flèches à des endroits en mode là... là, je n'ai pas généré autant de tokens parce qu'il y a eu ça comme problème, il y a eu ça comme problème. Mais en moyenne, je crois qu'il tourne à plusieurs millions de tokens par jour, le monsieur, je ne dis pas de bêtises.
L'orgie.
Ouais, ouais, mais bon, après, le mec, c'est son boulot, tu vois. Il ne faisait pas ça juste pour le fun. Il en avait mis 6 de GPU, tu vois. Après, bon, la consommation électrique, c'est pas déconnant. L'avantage qu'il y a, c'est que pour chauffer ton appartement, bah, t'as plus besoin de chauffage, tu peux te chauffer au...
Et quelques... Il y a des trucs dans les conclusions super intéressants, c'est bah déjà avec les... ce qu'il a épargné, il a amorti leur GPU, une fois que les GPU ont été amortis, il calcule que chaque journée, bah, il épargne autour d'une centaine de dollars parce que sa consommation actuelle, si tu prends le prix des tokens, ça serait une centaine de dollars. On parlait tout à l'heure de l'offre d'emploi qui te dit 5 millions de tokens par mois. Bah, 5 millions de tokens, c'est justement la centaine de dollars. Et donc, lui, avec ce modèle locaux dans son gros setup, en effet, mais que ce n'est pas si gros pour une boîte, bah, il épargne ou il génère l'équivalent de ça, 5 millions de tokens par jour, quoi.
Ah oui, et puis après, il y a aussi un autre truc qui, pour moi, n'a pas de prix, c'est que tout ce que tu fais sur ton serveur reste sur ton serveur.
Et là, il y a un autre argument extrêmement fort par rapport à aux LLM locaux ou aux LLM de proximité, carrément.
Bah oui, je veux dire, tu es en train de bosser et je suis en train d'accompagner une société qui est en train de développer une nouvelle technologie disruptive, vraiment. Tu vois, ils ont fait le choix, eux, d'installer leur serveur en local avec des LLM en local. Il est hors de question qu'une seule seconde, le code puisse fuiter sur autre chose qui n'est pas sous leur contrôle. Parce que la technologie, ils vont arriver à la sortir, j'ai aucun doute là-dessus. Mais une fois qu'elle va sortir, ça va changer le game. Et du coup, ils sont tellement parano, je le mets entre guillemets parce que je fais partie de la gamme des parano, qu'ils ont fait ce choix-là, peut-être pas 48 000 balles d'investissement GPU, mais ils ont fait le choix de tout internaliser et de coder en AirGap parce qu'ils n'ont pas confiance dans les LLM.
Quelque part, à un moment donné, pour des trucs qui soient sensibles ou importants, la question de faire dans des environnements locaux, des environnements souverains, doit se poser carrément.
Bah, totalement. Surtout que même si c'est compliqué de reprendre tout ce qu'une discussion qu'un LLM aurait fait de ton code, etc., etc., tu as quand même des chunks de fonctions tu vois, qui se balancent ici et là. C'est vrai que nous, la RGPD, c'est quand même un argument fort en tant qu'Européens qu'on a pour se protéger, mais quid après bah, de ta confiance quoi.
Bah oui. Bon, je crois qu'on avait d'autres liens qu'on voulait parler.
Moi, je voulais parler de Clever AI tout à l'heure.
Très beau produit.
très beaux produits. On va pas trop.
Mais moi, j'ai envie de dire à Vivatech. Rendez-vous à Vivatech pour Clever et AI.
Spoiler, cet épisode sortira la semaine de Vivatech, la semaine avant Vivatech normalement. Donc, rendez-vous à Vivatech, soit des jours, des semaines, soit la journée grand public, samedi, et discutez avec des gens de Clever Cloud. Vous verrez des démos sympas et je ne peux pas vous les spoiler, mais basiquement, Clever AI, c'est un outil, c'est pas un nouveau modèle LLM, non, c'est un outil pour rationaliser, faciliter, rendre plus enterprise l'utilisation de la IA et faire des trucs sympas, comme on disait, type gérer ces différents modèles, router ces différents modèles en fonction des critères, avoir une idée de combien ça te coûte les différents modèles. Bref, un outil pour rendre une utilisation enterprise de la IA beaucoup plus simple. Mais
vous avez vos propres événements aussi?
Quoi?
Chez Clever, vous avez vos propres événements, j'imagine.
Oui, chez Clever, on a fait en fin d'année dernière notre événement Access et l'année précédente, on avait fait notre Clever Fest. Donc, on essaye de faire un gros événement par année. Il n'y a pas encore la date de cette année. C'est là où on annonce des nouveautés. Mais là, on a la chance d'être bien présent à Vivatech, donc sur plusieurs stands. Donc, je pense que c'est un moment dans lequel, c'est pas que je pense, on va montrer, annoncer des choses et faire des belles démos en attendant qu'on fasse en fin d'année, début d'année prochaine, un autre événement à nous, carrément.
Mais n'hésitez pas à venir discuter, échanger avec nous. On s'est fait plein de copains l'année dernière, mais vraiment, des gens qui sont même venus après au Massy, qu'on a rencontrés à Vivatech. C'est vraiment un bon moment d'échange, de pouvoir discuter de vrais sujets, je dirais stratégiques, parce que maintenant, ton cloud est un sujet stratégique. Donc, voilà.
17 au 20 juin 2026.
Oui, voilà. C'est ça.
C'est ça.
Ça va être trop bien, il y aura plein de monde, ce sera génial.
Et puis, si vous n'êtes pas disponible le 20 juin, il y a un autre événement le 27 juin. Et d'ailleurs, Erwan et Yannick, n'hésitez pas à venir. Hein, vous êtes invités avec plaisir.
Ça sera avec grand plaisir.
Si jamais vous n'êtes pas disponible en présentiel, il y a aussi la possibilité d'assister à distance. Voilà. On est en hybride sur cet événement.
Grâce à la technologie, on arrive à faire des choses de ouf maintenant.
Ah, j'ai fait mon propre flux RTMP pour pouvoir proposer ça.
Wow.
Ça a été fait pour le Covid, ça, ou c'était...
Comment ?
Le nouveau flux, il a été fait pendant le Covid.
Ah non, c'était sur Twitch avant. Twitch et YouTube.
Ouais, enfin, en gros, tu lances un VLC qui fait ton flux RTMP ou tu vas from scratch à grand coup de FFmpeg ?
Alors, moi, j'ai deux amis à moi. J'ai Claude.
Ouais.
C'est Fred, mon pote Fred aussi. Société.
C'est fou, on a tous les mêmes amis maintenant.
Ouais. Ils s'appellent tous Claude. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
En parlant des amis, avant de... Parce que je vois que le temps avance. Yannick, j'aimerais bien que tu nous racontes ton dernier side project. On l'avait promis l'épisode précédent, on n'a pas eu le temps. Et sinon, je pense qu'on va louper celui-ci. Mais... Tu joues avec des portes logiques maintenant, c'est ça?
Ouais, en fait, il y a mon prof de microprocesseur quand j'étais à l'école qui avait refabriqué son propre CPU. Et à l'époque, ça m'avait juste subjugué. Mais comment c'est possible? Parce qu'en plus, il l'avait fait en logique câblée, en soudant des trucs, quoi. Et donc, je me suis dit, à l'époque, un jour, j'arriverai à refabriquer ce genre de truc. Mais moi, je suis pas du tout manuel, donc souder des trucs ou ce genre de choses, c'est un peu trop compliqué pour moi. Du coup, pendant à peu près 10 ans, je me suis documenté sur comment ça marche réellement toute l'électronique logique dans un CPU. Et là, avec l'IA, et donc notre copain Claude... Et j'ai franchi le pas de me dire, mais si je faisais carrément un playground où je peux m'amuser avec des portes logiques.
Ce qui m'arrive tous les jours. Enfin là, je veux dire, tu viens de combler un problème que j'avais encore ce matin.
Et donc, j'ai commencé à lui dire, j'aimerais bien pouvoir simuler ce qui se passe avec des transistors. Donc, d'accord, il m'a fait une petite simulation où il y a des interrupteurs parfaits qui permettent de pouvoir ouvrir et fermer la voie. Après, je lui dis, mais ça serait cool qu'on puisse les agencer les uns par rapport aux autres. Du coup, en les agençant bien, on crée ce qu'on appelle une porte logique NAND, pour être plus précis. Et quand on prend plusieurs portes logiques, on peut commencer à construire n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est fabriquer une RAM, fabriquer un compteur, fabriquer un multiplexeur, on peut tout fabriquer. Et donc, j'ai petit à petit construit mon système qui me permet de pouvoir assembler mes portes logiques. Mes portes logiques, je peux les sélectionner, dire je veux fabriquer un composant. Du coup, je me trouve avec un composant avec les pins d'entrée et puis les pins de sortie. Et de proche en proche, je construis tout mon système. Puis après, je me suis dit, attends, mais ça serait cool qu'on puisse rendre dynamique tout ça. Du coup, j'ai commencé à rajouter des horloges qui cadencent le truc. Et maintenant, la simulation, elle vit. On voit les câbles qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent, et ainsi de suite. Mais je me suis dit, mais il y a encore un autre truc qu'on pourrait faire, c'est pendant la simulation, est-ce qu'on pourrait pas rentrer carrément dans les composants et puis regarder les différentes couches les unes par rapport aux autres? Et petit à petit, le système, il s'est complètement créé sous mes yeux, en fait. Je n'ai pas écrit une seule ligne de code, je n'ai fait que regarder ce qu'il m'a fait. Là, je suis pas en production, donc j'ai le droit. Oui, Erwan, tu veux dire...
Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'à la fin, je peux programmer un FPGA avec? Parce que ce serait genre juste génial. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les FPGA, Field Programmable Gate Array, on va appeler ça des microcontrôleurs. Je me fais engueuler encore en simplifiant trop les choses. Mais que tu peux programmer à la porte, tu vois. Et du coup, un FPGA, tu peux en fabriquer une carte vidéo, tu peux en fabriquer ce que tu veux. Mais du coup, ton simulateur, c'est ce qu'il fait.
Oui. Il crée ton architecture, donc pouvoir après l'extraire pour en faire la matrice de fusible, ouais, ça doit être possible. Faut demander à Claude.
C'est le problème de Claude, mais voilà, c'est ça, c'est le problème de Claude, c'est pas le tien, c'est pas le mien, mais ça pourrait être vachement bien.
Et le comble du comble, c'est que tout fonctionne dans le navigateur, parce que c'est du WASM. Tout a été écrit en Rust, donc on compile via le target GNO WASM 32. Fini, c'est bon, ça tourne dans le navigateur. Et après, il y a une petite couche graphique qui a entièrement tout redessiné en SVG, en ayant optimisé tout. Donc ça veut dire que quand il y a un rendering, c'est pas un rendering de l'intégralité du workspace, c'est un rendering de l'élément qui a besoin d'être re-render. Ce qui fait que mon truc, je peux le faire simuler à 100 Hz et ça lag absolument pas. Il est capable de simuler l'intégralité de toute la logique câblée. Et donc, j'ai réussi à faire fabriquer un compteur qui compte de 0 à 99 à 100 Hz en adaptant à l'atome du transistor. Et ça, je trouve ça génial. Quoi.
Si vous aimez ce type de projet fou, il y a un gars, Olivier Hubert, qui a fait pas mal de talks en comment il a créé une carte son, un ordinateur 8 bits et un Apple II sur des breadboards avec des composants samplés. Et vraiment des transistors, des portes logiques et des composants de base. Je vous laisse les liens à ces conférences. C'est vraiment impressionnant, surtout quand il les voit arriver avec un truc qui fait 25 breadboard fois 25 qui prend toute une table. Oh, là, c'est un ordinateur 8 bits avec 4 kilos de RAM. Mais vraiment, c'est un composant intégré. Et c'est simplement impressionnant.
Surtout que ça va permettre à pas mal de gens de recomprendre la base des choses. Et je pense que les grandes innovations qui vont arriver dans ces prochaines années, ça va être des gens qui, grâce à l'IA, vont trouver, tu vois, de nouvelles choses, de nouvelles façons de réimaginer des choses qu'on croyait acquises et de base. Tu vois, Ford le disait toujours, si moi je demandais aux gens ce que je devais faire, je devais faire un cheval qui va plus vite. Moi, ce que j'ai fait, c'est une voiture. Là, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont réimaginer le truc. Il y a des choses qu'on imaginait impossibles ou non conventionnelles. Grâce à l'IA, vont pouvoir exploiter leurs idées.
on éviter d'utiliser peut-être ChatGPT parce qu'il y a tellement un biais de confirmation dans cette IA que même si vous avez une idée de merde, elle vous dira que c'est génial. Sachez-le.
Mais c'est complètement ça. C'est un projet comme ça, sans IA, jamais je le fais parce que j'aurais mis un an et demi et je me serais lassé largement avant. Je me lasse en 3 semaines. Donc ce projet n'aurait jamais vu le jour parce que je me serais arrêté à « j'ai envie de dessiner un truc sur l'écran, ouais, mais je suis nul en design ». Et ça aurait été vraiment un stop final au projet, c'est juste « j'ai une idée, mais je ne suis pas capable de la retranscrire ». L'IA, bah, elle permet justement de pouvoir créer des choses qui n'auraient pas été forcément possibles auparavant, quoi.
Ouais, c'est clair. Bon, rien que le temps que ça te fait gagner.
J'adore ton side project.
Ouais, super intéressant.
Bon, et pour finir, il y a notre lien, je pense que c'est à toi, Erwan, ou c'est peut-être à Yannick ou à Draven, sur le chip yellow display.
Ah, c'est moi ça.
Ah, Yemen.
C'est moi ça.
Déjà, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est le chip yellow display et pourquoi tu t'en sers par exemple?
Ah, moi je m'en sers pour plein de trucs. Mais chez notre ami Ali qui vient de Chine et qui est rapide, il y a des cartes jaunes, pas chères, d'où leur nom, chip yellow device, qui contiennent déjà un écran tactile, soit capacitif, soit résistif, donc soit avec le petit stylet, soit au doigt. Ceux au doigt, ils doivent être à genre 12 ou 13 balles, pour vous donner un ordre d'idée. Et tu as un ESP32, donc un très bon microcontrôleur S3. Donc, il a de la patate, il a le Wi-Fi, il a le Bluetooth. Donc, dès que tu as envie de te faire un petit projet embarqué d'IoT, tu vois, un contrôleur, un thermostat, enfin bref, n'importe quoi, et que tu as envie d'avoir une interface utilisateur, moi je suis un peu comme Yannick, d'ailleurs je suis une grosse merde dans l'usage graphique, mais il supporte le VLGL qu'on avait présenté, je crois, il y a 3 ou 4 épisodes en arrière. Je vous laisse dans les mémoires archives. Mais en gros, Cloud Code, tu lui donnes un SVG de « je veux que ça ressemble à ça, démerde-toi » et croyez-moi, il sait se démerder et ça ressemble à ce que vous voulez. Enfin, moi, l'autre coup, j'ai cloné, j'ai fait une capture d'écran d'un truc que je voulais, j'ai redessiné en SVG par-dessus avec Inkscape en mettant les bons noms d'objets de calque. J'ai même pas eu besoin de lui expliquer la vie. Enfin, je lui ai donné un travail qui était bien fait, merci à moi. Et l'IA a très bien fait le travail, merci à moi encore. Et donc, du coup, ces chips Yellow Device, je les achète par paquet de 12. C'est comme les escargots, ça vient par douzaine. Et c'est vachement parce que c'est pas cher. Et puis, tu sais toujours qu'à un moment ou à un autre, tu vois, tu te dis, je retrouve pas l'oscilloscope dans le bordel. Donc, tu te fais vite fait un mini oscilloscope, tu vois, avec le chip Yellow Device. Bref, tout ça pour dire que ça marche très bien, c'est très utile, je m'en sers beaucoup. Et il y a un autre outil que j'utilise beaucoup dans ma vie, que à des fins pédagogiques bien évidemment, bien sûr. C'était mon Flipper Zero. Et mon Flipper Zero a décidé de mourir sa belle mort. Alors, voilà, pensez que quand vous faites de la radio, c'est bien de mettre l'antenne avant d'allumer le bordel. Parce que l'antenne, elle est là pour une raison. Et elle est là pour prendre du gain dans la gueule. Donc, quand tu prends une antenne qui fait cette taille-là et que tu ne la branches pas, trop de puissance tue la puissance. Donc, mon Flipper Zero a décidé de faire... Et donc, du coup, j'ai pleuré parce que... Fait chier, j'ai pas envie de racheter un Flipper Zero. C'est la chose que je l'avais pas acheté, celui-là. Donc, fuck it. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas maintenant, à l'heure actuelle, la possibilité de faire ce que fait le Flipper Zero pour mon besoin personnel d'analyse? Facilement, tu vois, j'ai pas des grands besoins, j'ai juste besoin d'analyser du Wi-Fi, de temps en temps intercepter un Bluetooth pour NFC. Voilà. NFC principalement dans les hôtels parce que j'en ai marre d'aller retourner à l'accueil pour récupérer ma carte d'hôtel, donc généralement je reduplique mes cartes d'hôtel moi-même, ce qui est vraiment pratique, je vous jure, tu vois, c'est pratique, tu vois, le Flipper Zero, il est dans ta main, c'est pas très gros, la vie est belle. Et mais le problème, c'est que ça coûte une blinde. Enfin, on en est à 50 balles, plus les extensions, plus les machins. Enfin, pas envie de repayer ça, quoi. Et du coup, je suis tombé sur un projet qui s'appelle le Maraudeur et qui permet de faire tourner sur ces chips Yellow Device la même chose, honnêtement, la même chose que se fait ton Flipper Zero. Tu retrouves les mêmes modules, tu retrouves les mêmes choses, c'est pas forcément organisé de la même façon, mais t'as les mêmes fonctionnalités. Tu trouves des cases en impression 3D, c'est un poil plus gros que le Flipper Zero. Mais dans la réalité, le Flipper Zero, son problème, c'était l'écran et je passais plus de temps à regarder le truc sur mon téléphone pour voir ce qui se passait et faire des trucs, charger des machins. Là, rapidement, enfin, tu fais tout, tu peux charger des PCAP, tu peux faire de la capture on the fly. Donc, c'est vraiment un beau petit projet open source qui est là pour, bien évidemment, des fins d'analyse et de
pédagogique,
d'optimisation système. Hein. Peu importe les termes qu'on doit utiliser maintenant pour être un white hat, mais c'est un outil de white hat et qui est vraiment pas mal. Surtout que le truc qui est bien, c'est que la communauté qui est derrière, enfin, il y a plein de forks qui existent sur ces modèles-là. Il existe plein de petits modules additionnels où on retrouve exactement des trucs que tu retrouvais sur le Flipper Zero, comme dupliquer une clé physique, tu vois, pouvoir renseigner le barillet d'une clé et rentrer les numéros, pouvoir suivre et scanner des AirTags, tu vois, toujours pratique quand tu es à l'aéroport et que tu veux retrouver ta valise. Là, tu peux faire un peu toutes les conneries que tu fais avec un Flipper Zero, mais pour 13 balles, et il faut juste... Enfin, moi, je vous conseille de racheter une antenne un petit peu plus péchue que celle qui est sur l'ISP, parce que c'est une petite antenne PCB, mais tu grattes la piste, tu mets un pigtail, enfin un petit connecteur SMD en pigtail, et ta vie est belle. Et c'est d'ailleurs bien documenté sur le système. Donc, voilà.
Bon, bah, merci beaucoup. Ça ouvre pas mal de possibilités sympas d'expérimentation.
Moi, j'ai optimisé tout mon Wi-Fi à la maison grâce à ça. Hein. C'est tout con, hein, mais entre tous les Wi-Fi des voisins, les différents channels des bornes Wi-Fi, etc., avec un truc comme ça, tu passes en mode analyse de spectre. Ça te fait vraiment un outil dont tu transportes tous les jours dans ton sac et qui est utile.
Nickel. Bon, bah, ça me semble une bonne façon de finir cet épisode. Merci beaucoup, Erwan. Mais maintenant, pour la peine, il va falloir que tu me dises une musique de fan. Il va falloir que tu nous mettes une musique dans la tête.
Eh bien, écoute, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport en nous écoutant. D'ailleurs, c'est sûrement fini, votre séance de sport. C'est le moment d'une petite bière, d'une petite clope pour vous reposer. Mais blague à part, sinon, je vous conseille Memory Lane. Tiens, c'est sympa, c'est la Memory Lane de NAS, de NAS. C'est du petit rap tranquille, du petit pop flow, tu vois, pour récupération du sport, marcher tranquille.
Nickel.
On dit que ça peut être bien.
On va sur Memory Lane de NAS, on va dire merci à tout le monde. Merci Erwan, merci Yannick, merci Graven. C'était un vrai plaisir d'enregistrer ces deux épisodes avec vous. Et merci à vous qui nous écoutez. À très bientôt tout le monde.
Au revoir. I rap for listeners, blunt heads, fly ladies and prisoners, Hennessy holders and old school niggas, then I'll be dissing her, unofficials that mo' coolie tie, I dropped out of coolie high, gas the bar, cocaine, cutie pie, jungle survivor, fuck who's the lava, my man put the...